Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Salut Charline.
Salut Alex.
Ah bah, t'as l'air impatiente de me voir.
Ah oui, oui, je te le dis parce que je t'aime bien, mais je pense qu'on te perd.
Plus que d'habitude.
Ah oui, oui, oui. Depuis 4 ans, je mets beaucoup de confiance en toi et je ne vais pas te mentir. Personne ne s'explique pourquoi.
À ce point-là, j'ai...
Écoute, on passe 5 minutes sur un sujet, puis toi tu débarques.
J'ai pas compris le sujet, c'est des Bretons qui veulent boire de l'eau.
Ouais, j'y étais pas.
Encore hier, là, c'est pas grave, mais après on a l'impression que t'es aigri vis-à-vis des autres.
Sur le hashtag Par Jupiter, il y a quelqu'un qui dit « punaise, le charisme d'Yvan Bourgnon », mais elle ne dit rien, cette personne, sur le charisme de Mélanie Bauer, de Pablo Mira et de Guillaume Meurice.
Oh, ça, c'est pas sympa
non,
pour
non,
eux.
Non,
hein.
T'as tellement raison, je devrais pas.
Ouais.
Je devrais
et après,
pas.
Tu t'attaques à moi.
À toi.
C'est un article puisé dans La Croix, une nouvelle fois. Donc,
vous avez bien lu La Croix aujourd'hui.
J'ai beaucoup lu La Croix aujourd'hui.
C'est un petit côté.
Ils aiment la voix, là, La Croix.
Alors. Oh là 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 là, pardon.
Ouais, moi, j'ai quand même pas un petit côté 16e arrondissement.
Si, enfin non, enfin, on avait dit avec les autres de pas te le dire. Donc, mais non, non, mais je comprends maintenant, tout ça t'a perturbé. Et puis après.
On peut dire, vous êtes le PDG, j'allais dire. Le président de l'ONG, Sea Cleaners.
Quand t'en viens, toi, à confondre PDG et ONG,
non,
c'est
mais
que...
Non, t'as raison,
bah,
je me reconnais pas, là.
Et puis t'as même laissé dire n'importe quoi à l'invité.
Ouais, Yvan Bourgnon.
Bah, il a quand même dit ça.
Non, l'administration suisse, c'est extraordinaire. Ça fonctionne comme une merveille.
Ah. Je l'ai laissé dire.
Ah ouais, la Suisse.
Alors en fait, on se perd tous les deux.
Je
alors
pense.
Faut pas qu'on se lâche,
non,
Alex.
Non, non, parce que sinon c'est Guillaume qui va reprendre l'émission.
Oh non, l'auditeur ne mérite pas ça.
Mérite pas ça.
Bonjour la France Inter, nous sommes le jeudi 7 juin et voilà déjà 350 jours que les abeilles, les ours blancs et les pousses de maïs réclament la libération de Nicolas Hulot, capturé dans la brume du petit matin le 21 juin 2017. On ne t'oublie pas, gros.
Vous voyez les petits.
Voici le menu des informations. Ça y est, elle a parlé. Elle parle. Brigitte Macron, elle est partout en photo, mais on n'a jamais le son. Sauf ce matin où elle annonce se lancer contre le harcèlement scolaire sur Internet. En pleine révolution féministe, elle est surtout une image et un cintre Vuitton. Mais qu'est-ce qu'elle attend, Brigitte?
Vous voyez les petites boules, là, qu'il faut secouer pour faire apparaître la neige? Voilà ce que j'aime faire. J'aime secouer toutes ces petites boules pour y remettre de la vie.
Les Marocains ont réussi un boycott retentissant des produits Danone. La marque pratique des prix trop élevés sur des produits de première nécessité comme le lait.
C'est combien? Non, mais non, je ne vais pas crier.
Combien?
Les enfants lisent volontiers à l'école primaire, mais au collège, beaucoup de garçons décrochent des livres parce que ce serait un truc trop de filles. Bon, ok, alors qu'est-ce qui t'amène, ma petite fille?
Vous avez reçu le tome 2 de Briser la dictature du temps de Jean Rosson?
Bien sûr. Lui, au collège, il lisait des albums. Panini. C'est avec Uzrek.
Je le sentais arriver. Bonjour, Charline Vanhoenacker. Eh bien, malgré tout, vous aurez une belle équipe, figurez-vous. À 17h20, celle qui est sans doute la Charline Vanhoenacker du Burkina Faso. Et c'est probablement pour ça qu'ils ne l'ont pas gardée là-bas. C'est Rukiata Ouedraogo, bonjour.
Bonjour Alex, bonjour tout le monde.
De quoi on va parler?
Aujourd'hui, on va parler de peau d'âne. Et quand je dis peau d'âne, je ne parle pas du conte populaire. Non, il faut le voir en pluriel.
La vraie peau d'âne. À 17h30, ce soir, il jouera la première de ses 3 dates au Trianon. Et étonnamment, elles sont complètes. Donc, a priori, les gens qui lui en veulent se sont mobilisés. C'est vous, Guillaume Meurice.
J'ai peur. Bonjour à tous. Moi, j'ai rencontré un réfugié soudanais aujourd'hui. On a parlé d'intégration de Gérard Collomb et de la présence d'Alex Vizorek dans une émission à 1 heure de grande écoute.
Il y a des trucs que... On comprend pas.
Ouais, même quand on est français, on piche pas, donc un réfugié.
Et enfin, à 17h40, si elle était au dernier étage d'une tour d'un château médiéval, je serais son Mamoudou Gassama. C'est Clara Dupont-Mono, bonjour.
Bonsoir Alex, bonsoir à tous.
Elle est en train de vous proposer de vous grimper dessus.
J'ai compris,
De quoi on va parler?
J'ai compris. On va parler de l'album de notre invité qui parle d'oiseaux et de filles.
Qui est cette personne?
Allez, je me tourne vers celle qui va tout gribouiller l'open space. Vous entrez aux arts décoratifs à Paris et participez activement à mai 68. Vous publiez votre première bande dessinée, Harry Mixon nettoie ses pinceaux, ce qui vous pose là comme pionnière de la BD féminine. Un plus large public vous découvre avec Le Démon de Midi ou Changement d'herbage, Réjouis les veaux. Ensuite, vous créez Les Déblocs dans le journal de Mickey. Vous êtes la seule femme à ce jour à avoir été couronnée par le prix du Festival d'Angoulême. Nous tenons ici, chers amis, un exemplaire unique qui s'appelle...
Florence Sestac.
Oh yeah, oui,
Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek,
par Jupiter.
Bienvenue Florence Sestac.
Merci.
Vous publiez le deuxième tome de Filles des oiseaux, paru chez Dargaud. C'est un truc de fille, je laisse à Alice Vizorek, tiens pour
bien
voir.
Sûr, bien sûr.
Oui, c'est moi qui ai lu, et alors j'avais pas lu le premier, et...
Bah alors.
Bah oui, alors je m'en veux, je vais me rattraper, mais on comprend tout à fait le second sans avoir lu le premier. Parce que vous expliquez qu'en fait, les deux personnages principaux, hein, qui pourraient être principales vu que ce sont deux filles, demoiselles, voilà. L'une, elle a grandi à Neuilly, plutôt bourgeoise, l'autre, elle a grandi en Normandie à Beuzeville, et ça démarre, elle s'installe à table, elle se retrouve, elles ont quelques années de plus que avant mai 68.
Ils ont 60 ans.
Et elles ouvrent une bonne bouteille de Saint-Amour et elles commencent à parler. L'album est un énorme flashback sur tout ce qui s'est passé.
En mai 68.
Non, depuis mai 68 jusque la suite. Vous auriez dû le lire avant de faire votre chronique.
Clara les a lus. Ah, oui.
Oui,
elle connaît par cœur.
C'est comme avec les romans. Enfin voilà. Laquelle des deux vous êtes le plus vous?
Bah, entre les deux, justement.
C'est ça, vous mais avez moi, pris vos deux moitiés.
Moi, j'ai vécu aux oiseaux, mais c'était à Honfleur, vous voyez, c'était pas loin de Beuzeville.
Un pensionnat, faut expliquer pensionnat, votre histoire voilà. qui démarre avec cet album.
Ouais, dans le premier tome, donc on rencontre deux filles qui avaient rien au départ pour se rencontrer. Il y a une qui vient de Neuilly, chic et cher, et l'autre qui vient de Beuzeville à côté, qui est fille de paysan. Donc ces deux filles vont se lier d'amitié, comme ça, voilà, les gens, c'est comme ça, on se lie d'amitié, ça arrive, voilà, comme ça.
Et la deuxième, c'est celle que vous. On a plein de questions à vous poser.
Le règlement du pensionnat de Honfleur est assez rude et stipule de mémoire que si on porte un pantalon, il faut une jupe par-dessus. Ah bah c'est la moindre des choses.
Ce qui est pratique et glamour.
Voilà, donc c'était un pensionnat pour redresser un peu les filles un peu délurées pour les remettre dans le droit chemin. Et donc voilà, il y a les filles de bonne famille et la fille du paysan d'à côté.
Mais
voilà.
Justement, votre histoire, Florence Sestac, c'est que vous venez, vous, d'un milieu bourgeois auquel vous avez dit merde.
Voilà, exactement.
et vous êtes allé en Normandie dans un passionnant. Donc, est-ce qu'on peut dire que vous êtes les deux et que la deuxième, elle est plus peut-être un peu fantasmée?
La fille
les deux personnages, oui.
Non, mais toute ma famille, du côté de ma mère, était une famille paysanne bien normande, quoi. D'accord. Donc, moi, je suis un mélange des deux, quoi.
Vous êtes les deux, donc.
Voilà.
Et est-ce que vous partagez la désillusion de vos deux héroïnes par rapport à mai 68?
Oui, un peu, mais bon, moi, 68, c'était quand même un miracle, parce que j'étais programmée pour me marier, faire des enfants, acheter un pavillon à crédit et tout ça, entrer dans la ligne, et j'ai tout envoyé péter grâce à mes 68, quoi.
Donc. Quand Bertolucci fait 1900, il a envie de dépeindre son Italie pendant un long moment, et on ne sait pas tout raconter de 50 ans de vie. Ben est-ce que c'est ça aussi que vous avez voulu faire, c'est raconter votre histoire de France par deux personnages et,
Un peu, parce qu'il
y a des thématiques très, très marrantes, très chouettes, très nostalgiques, et puis il y a des thématiques très, très dures, comme le sida, par exemple, c'est des pages très dures, je trouve.
Bien sûr, bah oui, on a traversé tout ça, une génération où on a traversé effectivement tout ça avec ses joies et ses bonheurs, quoi.
Voilà. Et aujourd'hui, vous en nourrissez une. Quand vous regardez la génération qui a 20 ans aujourd'hui, par rapport à la vôtre qui avait 20 ans avant, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous vous dites, purée, ils sont mal barrés, ou alors ils s'en sortent pas trop mal,
ça va être moins facile pour eux, parce que pour nous, c'était quand même plus facile, quoi. La vie était plus facile au quotidien. Mais bon, je ne veux pas dire que c'était mieux avant et que c'était mieux pour nous, mais c'est quand même moins facile, quoi.
Donc quand on est révolutionnaire, il valait mieux naître en 64 que...
Non, on a fait notre petite révolution, voilà, mais c'était formidable parce qu'on
pensait
changer le monde.
Vous n'émergez pas à avoir 20 ans aujourd'hui sans savoir tout ce que vous savez, bien entendu.
Je ne sais pas, voilà, non, je ne peux pas dire. Voilà, moi, mes 20 ans, c'était le rêve, et donc je reste là, quoi.
Florence Sestac, aujourd'hui, elle bloquerait l'université de Nanterre. Hein.
Au moins. Moi, j'ai fait de la tôle, messieurs, dames. Hein,
oui, c'est vrai, racontez-nous cet épisode. Ah oui, en mai 68.
J'étais condamnée pour vol et destruction d'emblèmes nationaux.
Qu'est-ce que vous aviez fait?
Et le jour du 14 juillet, on avait descendu tous les drapeaux bleu, blanc, rouge, on avait arraché le bleu et le blanc, et on avait remonté le rouge partout, sur toutes les mairies autour du bassin d'Arcachon. Et on s'est fait gauler le lendemain, et donc ça, c'est vol et destruction d'emblèmes nationaux. Donc j'ai fait de la tôle à Gradignan, qui était à l'époque la prison la plus moderne de France. J'étais déchue de mes droits civiques pendant 6 ans, et mon père a payé une grosse amende.
Donc
il était content, hein, mon père. Déjà, la fille qui se retrouve en tôle, qui est partie au Beaux-Arts, et qui, après, qui... Non, c'est au secours.
À Stassième près, Florence Sestac, le deuxième tome.
J'ai une question, est-ce qu'elle regarde le passé? Oui. Est-ce que dans le prochain tome, elles vont regarder le futur, elles vont être de leur temps, ces deux demoiselles?
Ah bah non, mais là, ça s'arrête là. Oui, il y a deux tomes et tout.
On attendra dans 20 ans.
À 60 ans, à peu près l'âge que j'ai.
Peut-être dans 20 ans.
En tout cas, ces deux tomes sont parus aux éditions Dargaud. C'est Florence Sestac, et on vous conseille chaleureusement sa lecture. Elle est avec nous jusqu'à 18h. Oh, dis donc, c'est révolutionnaire. Oh là, on va laisser de ce studio dans un état. Oui. Avec Rukia Ouédraogo, Clara Dupont-Mono.
Scramble from the plane, and it's the friend that put words in her mouth. She couldn't help but spit them out. Innocence and arrogance entwined in the filthiest of minds. She was bitten on her birthday, and now facing the crowd. I suspect that now forever the shame she came to escape is forgot. And it's a lot to ask her not to sting and give her less than everything. Around your cookie conscience she will whine.
The Last Shadows Puppet qui chante My Mistakes Were Made For You, ce qui est un petit peu la devise aussi de cette émission. Et oui, traduisez chez vous, bien sûr.
Si vous n'avez pas ri, c'est que vous n'avez pas été à l'école assez longtemps. Voilà, voilà.
17h20 sur France Inter, nous sommes en compagnie de Florence Sestac, l'auteur de bande dessinée qui publie Fille des oiseaux, le deuxième tome, chez Dargo. Et qui est dans la place aujourd'hui, Alex ?
Eh bien, il y a Rukia Ouédraogo, il y a Guillaume Meurice et Clara Dupont-Mono, par ordre d'apparition.
Pendant que vous signez une petite dédicace dans l'album d'Alex Vizorek, dédicace dont vous dites toujours que...
Dédicace, je dis souvent les gens se précipitent pour avoir des dédicaces et au premier qui arrive, je lui dis toujours, les dédicaces c'est comme les crêpes, la première est toujours ratée. Donc là, tout ce coup il y a un recul.
Je vous passerai mon album après. Oui, bah,
eh bien on la mettra sur Facebook comme ça tout le monde verra que vous avez raté le dessin.
Les informations.
Comme le disait Bismarck, si on expliquait aux gens la recette de la saucisse, il n'est pas sûr qu'ils continueraient à en manger.
Le journal de presque 17h17.
Sacré petit saucisse.
Et on commence par les titres.
Laurent Wauquiez était en déplacement en Irak. Il a pris la pose en costume devant les ruines de Mossoul sur une photo qui fait couler beaucoup d'encre.
Oui, c'est idiot de se taper l'Irak pour faire ça. S'il voulait vraiment une photo dans les ruines, il suffisait de se rendre à une réunion de Les Républicains.
Loi sur les fake news, elle est débattue en ce moment à l'Assemblée nationale.
Et c'est le bon endroit pour le faire à l'Assemblée nationale quand on sait que même le président François de Rugy a essayé de nous faire croire que les députés travaillent trop.
Et bien sûr des brèves.
Oui, pour le prix d'une brève, vous en aurez deux. Car comme Macron, j'ai obtenu des ristournes.
Et nous commençons ce journal là, par un breaking news.
On est sous le choc, le journal était écrit et puis on a dû tout changer.
Parce que Françoise Nyssen, à l'Assemblée, il y a une petite heure, vers 16h30, a dit ceci, attention.
Je salue François Morel, Alex Vizorek et Charline Vananecker pour leur chronique acide. Ils sont le pouls de la liberté de la presse dans notre pays. Ils sont aussi le signe que mon ministère tient ses promesses, remplit sa mission.
Mais qu'est-ce qu'on a fait?
Vous êtes devenu une caution. Françoise, elle nous a tués.
La poudre de la République. Allez, le pouls de la liberté d'expression, là. Faites votre boulot, le journal.
Alors, la cellule d'investigation de France Info a fait ses révélations sur des ristournes dont aurait bénéficié Emmanuel Macron durant la campagne présidentielle.
Macron, son truc, c'est les rabais. Hein, rabais sur ses comptes de campagne, rabais sur les APL, rabais sur le code du travail. Bref, une politique du rabais.
Merci Laurent Wauquiez. Passons à Brigitte Macron. Elle l'a dit, je veux bien être une groupie, pas une potiche.
Mais oui, et donc la potiche, c'est Christophe Castaner qui s'est sacrifié pour l'être.
Passons chez les Républicains.
Oui, Christian Estrosi était invité de Jean-Pierre Elkabbach et il lui a demandé s'il irait au Conseil national de Les Républicains qui se trouve à Menton. Bah, c'est pas loin de Nice.
Est-ce que vous irez l'Europe?
Si j'ai 5 minutes, je passerai.
Voilà, ouais. Si vraiment, s'il a le temps. C'est pas sûr, sûr. Hein.
Passons à l'Assemblée.
Oui, à l'Assemblée. Hier, ils ont pas été très gentils avec notre chouchou. Votre chouchou même, Guillaume. Jean Lassalle.
Ah oui.
Alors, le type qui braille derrière, c'est Jean Lassalle. Ah
ouais. Monsieur Lassalle, rappel au règlement, Madame Ménard. Ce qui est honteux, c'est ce que vous êtes en train de faire, Monsieur Lassalle. Vous n'avez pas à vous lever et à hurler dans l'Assemblée. Monsieur Lassalle, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Si vous étiez là au tout début de la séance, vous auriez entendu que les non-inscrits n'ont plus de droit de parole. Madame Ménard. Allez-y, Madame Ménard.
Voilà, hein, c'est ça le problème de la France. On coupe la parole au poète Jean Lassalle pour la donner à Madame Ménard.
Pas non, passons au PS, hein, oui, car le Parti Socialiste va entériner samedi son déménagement de Solferino à Ivry-sur-Seine.
J'espère qu'ils ont pris des déménageurs, parce que vu le nombre de sympathisants qui restent, il n'y aura pas grand monde pour aider, pour les cartons.
International, oui. La Corée du Nord, Kim Jong-un a supplié à genoux, paraît-il, pour qu'un sommet ait lieu. Et c'est ce que prétend l'avocat de Donald Trump.
Apparemment, Kim Jong-un a confondu Donald Trump avec Bill Clinton.
Retour en France avec cette étude.
Oui, vous avez l'image.
On visualise. Une étude. Un Français sur trois aimerait bien que son ou sa partenaire perde des kilos avant l'été.
Oui, les deux Français sur trois qui restent s'en foutent, car leur amant a déjà perdu 10 kilos.
Allez, de bref.
Oui, en Chine, des scientifiques ont découvert les plus vieilles empreintes d'animaux au monde. Et ils s'en sont rendus compte parce que juste à côté, ils ont trouvé quelques ossements et des baguettes pour faire des nems, déjà à l'époque.
Et là, la dernière.
Sur l'A1, le couple de grands-parents transportait 8 kg d'herbe.
Ah ouais.
Oui, depuis, les petits-enfants les appellent Beu Papa et Mamie Juana. Double jeu de mots, bim bim.
C'est donc ça le pouls de la liberté d'expression.
Et
ben.
Et le signe que le ministère.
C'était de l'herbe pour les lapins.
C'était de
l'herbe pour les lapins.
Vous
bien
avez
sûr.
Déjà utilisé cette excuse, Florence. Oui, Sestac.
C'est bien Florence Sestac qui est en notre compagnie, l'auteur de bande dessinée. On va aborder avec vous ce premier sujet. Brigitte Macron est une image. Bon, voilà, présentée comme libre, affirmée et lettrée, elle semble bien taciturne en pleine révolution féministe. Alors, elle est en couverture de Paris Match aujourd'hui, qui annonce en couverture une première dame dans son rôle. Et la photo d'ouverture en double page, elle choisit des tapisseries. Attention, des tapisseries modernes, précise la légende. Alors forcément, là, on est en droit de se poser des questions. Vraiment, quel rôle joue Brigitte ?
Une mère, une femme, mais aussi une citoyenne, qui s'inscrit de plus en plus, comme on a pu le voir récemment, dans la vie de notre pays, surtout en faveur des plus démunis.
J'essaie d'agir à mon petit niveau, évidemment. Par exemple, j'ai décidé d'organiser une grande journée 4 quarts pour le quart monde. Si chacun d'entre nous faisait un 4 quarts, c'est tellement simple, 4 œufs, 250 grammes de farine, de beurre, de sucre. Je crois que le monde tournerait plus rond.
C'est Valérie Le Mercier dans Palais Royal. Oui, donc dans Paris Match, voilà, ça. Alex vient
c'est
d'ouvrir.
C'est joli, hein, je l'ai ouvert pour que tout le monde puisse en profiter.
Et voilà. Vous, chez vous aussi, regardez hein, à travers votre poste. Vous... Brigitte Macron, choisir des tapisseries. Voilà, donc dans Paris Match, ça parle tapisserie, fringues et décoration. Alors, ma question, Florence Sestac, est-ce que vous pensez que ça peut servir les engagements d'une première dame, les engagements qu'elle prétend mener, apparemment donc d'abord sur l'autisme, mais aussi le harcèlement scolaire.
Pour répondre, je réfléchis.
Continuez à décider pendant ce temps.
Notez bien qu'aucune First Lady, de toute façon, ne s'était réellement exprimée à voix haute. Ni Danielle Mitterrand, ni Carla Bruni.
Michelle Obama.
Oui, mais en France, à la décharge de Brigitte.
Mais c'est de la nouvelle politique. Est-ce que ça, c'était l'ancienne politique? Est-ce que la nouvelle politique...
Mais nous, on veut avoir l'avis de Brigitte. Enfin,
ça, c'est vrai, je brûle de ça, quoi.
On l'a. Elle est contre le harcèlement scolaire.
Ouais, c'est courageux.
C'est important.
La question, je vous la repose, Florence Sestac, n'essayez pas de fuir.
Je suis en train de dessiner, alors. Mais
oui, c'est bon dos, le dessin.
C'est-à-dire qu'on nous montre aussi dans Paris Match Brigitte Macron dans une bibliothèque, etc. Oui. Et on ne doute pas que professeure de lettres, etc., elle soit fine lettrée, qu'elle ait des convictions. Oui. Est-ce que l'image qu'elle renvoie n'est pas à l'opposé? Elle ne veut pas être potiche, mais partout, elle n'est qu'une image.
Ben oui, mais peut-être qu'elle ne peut pas faire ce qu'elle veut non plus, je ne sais pas moi.
Mais on n'est pas en pleine révolution féministe.
Son temps, peut-être que oui, peut-être, je ne sais pas. Vous me demandez là.
Non, est-ce que vous pensez
pas moi, je ne la connais pas moi.
Oui. Marraine du Petit Panda, là, c'est ça?
Voilà, merci Rukyata Ouedraogo. Oui. Vous de rappeler ses engagements.
Est-ce que ce n'est pas nous qui sommes un peu frustrés qu'elle ne fasse pas d'erreur? Vu qu'elle ne fait pas grand-chose, elle ne fait pas d'erreur. Et ça nous ennuie un petit peu. Parce que Carla Bruni, on avait fait avant. Et ça, c'était quand même chouette.
Mais en même temps, une femme qui porte des escarpins Python ne peut pas être complètement sans qualité. Non mais à un moment, il faut dire des choses.
L'analyse de Marianne.
De quoi? Mais non, pas de Marianne.
Est-ce qu'il faut buter des serpents pour être de qualité?
Les serpents bleus, ça n'existe pas.
Les auditeurs veulent savoir. Nos auditeurs sont là, ils veulent savoir. Ils viennent pour changer le monde avec nous. La question, c'est, on est en pleine quand même révolution féministe. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas envie qu'elle puisse prendre part à ce débat parce que elle est partout en photo, mais est-ce que ça ne donne pas justement une image de la femme plus ancienne, plus traditionnelle? C'est juste la question, il n'y a pas de procès d'intention.
Oui, je suis un peu d'accord avec vous, mais puisque
il faudrait poser la question à Macron. Pourquoi ta femme ne s'exprime pas assez? C'est lui qui a peur qu'elle prenne la lumière.
Tout à fait,
elle en a beaucoup à dire, mais lui là. Et je veux pas.
La technique africaine. Attention, Manu. Si tu passes, on peut engueuler.
Voilà. Bon, vous conseillez la lecture de Paris Match où il y a d'ailleurs un article qui dit les mélenchonistes fans de Brigitte Macron. Donc, ça mérite un peu d'intérêt de creuser.
On conseille vraiment la lecture de Paris Match. On fait ça.
D'accord. Oui, des belles photos.
Non, une majeure partie des Français la juge élégante.
C'est vrai. Ça, c'est intéressant.
Voilà.
C'est
pas réducteur pour une femme.
C'est déjà ça.
C'est déjà ça.
On va laisser le micro à une femme émancipée. Rukyata Ouedraogo.
Ouais. Alors, aujourd'hui, je vais parler de peau d'âne. Quand je dis peau d'âne, je ne parle pas du conte populaire. Il faut l'entendre au pluriel. Je parle de millions de peaux d'âne que la Chine importe d'Afrique. La dernière fois que j'étais à Ouaga, j'ai rencontré un vieux camarade de classe qui est devenu vétérinaire au Burkina. Il m'a raconté une histoire incroyable. Il y a 2 ans, il est revenu d'un abattoir malade de Kerma. Il était tombé sur un immense charnier. Des dizaines de corps d'ânes dépecés étaient entassés en plein air, s'appuyaient à 3 km à la ronde. Les villageois lui ont expliqué que les Chinois achetaient tous les ânes de la région et les abattaient juste pour leur peau. Ils ne mangent pas la viande et ils laissent pourrir les carcasses au soleil. C'était un abattoir clandestin. Il m'a dit que les Chinois achetaient les ânes des paysans et les vendaient à crédit des tricycles pour les remplacer. Alors, un tricycle, c'est une moto avec une petite plateforme à l'arrière et ça peut transporter plus de charge qu'un âne et ça va beaucoup plus vite. Mais les tricycles ne se reproduisent pas entre eux. Ils ne coupent pas de l'herbe. Ils boivent du carburant et le prix d'achat de l'âne par les Chinois ne correspond même pas au millième de ce que l'âne rapportera aux paysans durant toute sa vie. Mais qui peut résister à l'appel d'une liasse de billets? Hein, qui? Mais surtout pas moi, vu ce qu'on me paye ici. D'ailleurs, ma sœur, Alex, il faut qu'on cause. D'accord. Alors, moi, je me suis renseignée sur ce que font les Chinois avec ces peaux d'âne. Eh bien, figurez-vous qu'ils font de l'ejiao. C'est un médicament traditionnel fabriqué à partir d'une gélatine tirée de la peau des ânes. Et ça soigne quoi les jiao? Hein? Quelqu'un peut me dire ça ici?
L'impuissance.
Hein, Alex?
Ah oui, ça doit être ça du coup.
Voilà.
C'est ça?
Ça soigne notamment le complexe du petit zizi.
Ah bah on parle de viserec, c'était facile en même temps.
Bon, allez, laissez Rukyata poursuivre.
Et oui, le fameux complexe du petit zizi qui justifie le massacre des derniers rhinocéros sauvages. Pourquoi les rhinocéros? Parce que leur corne évoquerait un sexe en érection. On appelle ça la pensée magique. Si ça ressemble à une érection, c'est que c'est bon pour l'érection. Alors, on a beau leur dire que les cornes de rhinocéros est faites de kératine comme nos cheveux ou nos ongles et que s'ils broutaient leurs cheveux ou se rongeaient les ongles, ça aurait le même effet que sur leur libido que de manger de la corne de rhinocéros, mais ils n'écoutent rien du tout. Le complexe du petit zizi est un complexe terrifiant. C'est pareil avec les jiao. Les Chinois ont déjà liquidé la moitié de leur âne dans l'espoir de gagner de gros zizi et quand ils se sont rendus compte de l'hécatombe, il y a un chef chinois qui les a dit, hop, 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 les gars, et si on allait massacrer ceux des Africains? Alors, certains pays africains, comme le Burkina Faso, ont interdit aux Chinois d'acheter leur âne. Mais d'autres pays, comme le Kenya, continuent à alimenter leur business. Alors, moi, ce que je veux dire aux Chinois, c'est que la taille ne change rien. Tout est dans le savoir-faire, les gars. Et puis, entre nous, les Chinois, vous êtes quand même 1,4 milliard. Ça devrait vous rassurer. Vos zizi fonctionnent très bien. Alors, ayez un peu confiance en vous, les gars, et laissez nos ânes et nos rhinocéros en paix.
Règlement de compte géopolitique par Rokata Ouedraogo. Merci. Allez, vous écoutez France Inter par Jupiter et Florence Sestac est en notre compagnie jusqu'à 18h. Youhou!
Et on trouve ça
je suis
où, les
la fille sans jardin, deux mains sans fête, une larme sans poids, une boîte sans lettres. Je suis piscine de bar, une piscine d'hôtel, sur mes côtes d'azur, c'est chaud, les âmes faibles, ma salive sans le chlore, mon lit décontamine. On s'y pousse, on s'y mêle, on y commet des crimes. Je suis piscine de sang, une piscine qui sait se taire et faire semblant.
J'ai l'impression que Camille veut aller à la mer. C'est ce que j'ai compris dans son titre Piscine sur France Inter. Nous sommes avec l'auteur de bande dessinée Florence Sestac qui publie Fille des oiseaux, le deuxième tome, paru chez Dargaud. Clara Dupont-Monod va nous en parler tout à l'heure. Florence, tout va bien ?
Ah, tout va bien, oui. Bien sûr. Il y a des belles histoires, là. J'entends des belles histoires. Les ânes, tout ça, c'est vrai.
Le massacre des ânes au profit de l'érection des Chinois, c'était la... c'était l'histoire. Je vous ai résumé la chronique de Rokata Ouedraogo.
Bernard Guetta, il a pris une grosse claque, là. Ouais, c'est ça.
Et Guillaume Meurice,
oui.
C'est à vous.
Ben moi, en plus, vous le savez, j'ai rien contre les étrangers. Je mange du tagine, j'ai un album de Youssou N'Dour chez moi. Je suis même allé voir Rokata en spectacle, alors que franchement, elle vient du fin fond de l'Afrique pour voler le travail des honnêtes humoristes français qui eux se donnent un mal fou, un mal de chien à voler les blagues des Américains. Franchement, c'est pas bien. Alors je pose juste la question, jusqu'où on se fera grand remplacer. Pour affronter cette angoisse, je suis allé à la rencontre de Youssif. Il vient du Soudan, il est informaticien et il a fui son pays à cause de la guerre civile. Il a fui. Ah, il a fui, il a pas fui. C'est la moindre des choses quand on arrive dans un pays, c'est qu'on respecte la langue, s'il vous plaît. C'est la base. Il a donc fui la guerre et il est passé par où ?
La Libye, Italie, France.
Libye, Italie, France, ouais. Donc traverser de la Méditerranée ?
J'ai traversé la mer avec un bateau de plastique.
Non, 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 pas un bateau de plastique, un bateau en plastique. Si Marlène Schiappa, écoute, c'est foutu, là. Si Gérard Collomb, il a changé les piles de son sonotone, c'est mort. Et puis traverser la moitié de l'Afrique, puis la Méditerranée, puis échapper à la police européenne, ça suffit pas pour mériter d'être français. Moi, par exemple, j'ai grandi en Franche-Comté. Voilà, on peut dire que j'en ai chié. Je mérite d'être français. J'ai pas eu besoin de benchmarker un pays. D'ailleurs, est-ce que Youssif, il l'a fait ?
Non, pas du tout.
Vous n'avez pas benchmarké?
Non, parce que en fait, je voulais aller en Angleterre parce que au moins les gens là-bas, ils parlent anglais. Nous, on parle anglais.
Oh, donc vous avez benchmarké les pays, mais c'était pas nous qui étions le premier choix.
Ben non, mais c'était pas une question de vous ou où. C'est une question de langue, tout ça.
Ouais. Comme si nous, on était nuls en anglais. C'est l'abus, quoi. I am very disappointed by this allegation with many mensonges. Je tiens. I am very upset. I tell you comme je le pense. Alors, Youssef, il est arrivé, il parlait pas français.
Quand les gens, ils rient, donc je rire avec eux. Les gens, ils pensent que je parle parisien.
Ah oui, vous rigolez aux blagues, même si vous ne comprenez pas.
Oui. J'ai fait comme ça, hein, même s'il y a des blagues. Ah, regarde le mec, comment, le noir, comment il rit. Hein.
Et vous vous intégrez comme ça.
Oui, j'ai intégré comme ça.
Oui, alors attention à ça, parce que c'est quoi la limite? Est-ce qu'il faut obligatoirement rire au bref d'Alex Vizorek, par exemple? Est-ce que c'est ça le pays qu'on veut? Vraiment, je pose la question, c'est un vrai débat de société. Clara, au moins, elle a l'honnêteté de ne pas rire aux blagues qu'elle ne comprend pas. Donc, elle ne rit pas souvent, mais elle prend le risque d'être exposée. Pulsé vers son pays d'origine, le royaume de Louis VI le Gros, roi des Francs et du cholestérol, d'où le nom du gars. Alors, moi, je veux bien l'aider, Youssef, en lui rappelant que pour avoir des papiers français, il faut sauver des enfants. Alors, est-ce qu'il sauve des enfants?
Ah, non.
Oh, bah voilà, non.
Mais si j'étais à la place de lui, je sais pas si je peux le faire, mais je peux essayer quand même.
Ah bah ouais, il faut essayer là, pour avoir des papiers, il faut sauver des enfants des balcons.
Non mais maintenant, tous les réfugiés, allez, faire comme Superman.
C'est ça, il faut que vous soyez Superman, ouais.
D'accord, il faut mettre ça comme un article dans la loi.
Ah c'est vrai, c'est pas mal ça, on met dans la loi asile-immigration, non Superman, s'abstenir. Si vous avez une expérience de ninja, c'est un plus, mais filmer, si vous sauvez des gamins loin des caméras, ça sert à rien. On est le pays du cinéma, bordel, des frères Lumière, taxi vite, c'est nous, merde. Ayez les bons réflexes. Bon, sinon j'avais une autre solution pour Youssef. Est-ce que pour vous intégrer, vous allez devenir CRS?
Jamais.
Non, ça serait le maximum de l'intégration.
Non, jamais.
On entend la police en plus qui arrive derrière.
Écoute, je le respecte, on n'est pas des amis, mais je le respecte, mais jamais.
Ah, voilà, ça veut dire, ça m'attriste, c'est dommage.
Pas d'effort.
Mais oui, parce que Youssef, il a déjà l'expérience de la procédure policière. Il les a vus, les CRS, mettre des coups de cutter dans les tentes, brûler des couvertures de migrants. Il a déjà le bon geste, j'ai envie de dire. Et franchement, s'il n'est pas allergique au Ricard, il a tous les atouts pour être CRS. Mais bon, évidemment, monsieur Youssef a d'autres ambitions.
J'ai déjà écrit un texte, un poète sur moi et Marianne, comme une histoire d'amour qui a été terminée mal.
Ah oui, parce que vous faites des poésies.
Oui, je suis écrivain.
Ouais, mais ça, pour le PIB, ça va pas nous rapporter grand-chose. Hein.
Oui, bah, on s'en fout.
Ah bah, on s'en fout, non. Baudelaire, c'est que dalle en PIB par rapport à Monsanto. Alors, est-ce qu'on veut plus d'écrivains ou plus de gens qui foutent la gerbe? C'est un autre débat de société. Je sais que Christine Angot fait les deux à la fois, d'ailleurs, mais ça mérite quand même qu'on en discute. Et puisqu'on parle d'écriture, qu'est-ce que Youssef a à répondre au discours de Gérard Collomb?
Ben, je veux dire, ok, pour certaines personnes, c'est le loi, c'est le texte, c'est des idées, mais pour les autres, c'est la vie ou la mort.
Voilà, la vie ou la mort, comme Youssef le raconte sur son blog qui s'appelle Le Voyage de la Mort, disponible sur refugeetrip.wordpress.com, mais ne comptez pas sur moi pour en faire de la pub. ne comptez pas sur moi non plus pour faire de la pub du BAM, BAM, B-A-A-M, le Bureau d'accueil des accompagnements de migrants, qui a accueilli Youssef et qui a besoin de dons. La publicité, je le rappelle, doit rester commerciale. La société est basée sur l'argent, pas sur les gens. Et tant que la solidarité ne sera pas cotée en bourse, on laissera crever tranquille des humains sans ressources.
Merci Guillaume Meurice, donc on n'embrasse pas Youssef du tout.
Pas hein. du tout. Oh, pas
on
du
l'embrasse
tout,
pas. Tout. Très très fort. Merci Guillaume. 17h41 sur France Inter. Nous sommes avec Florence Sestac et abordons cet autre sujet avant d'entendre Clara Dupont-Monod parler du deuxième tome de Filles des oiseaux qui paraît chez Dargaud. Ce sont les Marocains qui ont réussi leur boycott contre la vie chère. Ils ont arrêté d'acheter le lait Danone et aussi une marque d'eau minérale et de l'essence à la pompe Afriquia. Tout cela, ils le jugent hors de prix. Ce sont des produits pour lesquels ils ne ont de toute façon plus les moyens. Et tiens, pourquoi le pot de yaourt coûte-t-il parfois si cher? Merde.
Bonjour, ça c'est Starlight, un nouveau yaourt allégé qui n'a strictement aucun intérêt. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on cherche à vous vendre?
Mais parce qu'on a des objectifs.
On a du chiffre à faire, nous. Vous savez combien ça coûte 30 secondes du cerveau des gens qui regardent la télé à cette heure-là? 400 000 balles, 400 000 francs.
Alors comment on fait, nous, hein? Avec quoi on paye tout ça? Tiens, notre PDG, par exemple, avec son salaire qui avoisine grosso modo le PIB du Burkina Faso.
Hein? Avec quoi on paye? Parce qu'on le trouve le pognon.
Et nos actionnaires, les investisseurs, comment on fait? Comment on fait? Alors maintenant, on éteint sa petite télé, on prend son petit porte-monnaie et on va filer ça dans son supermarché pour écouler les stocks. Il y en a 12 000 tonnes à becter.
C'est Jean Dujardin dans 99 francs de Yann Kounen, l'adaptation du livre de Frédéric Becbédé, bien sûr. Florence Sestac, j'imagine que ça doit vous réjouir, ce genre de contestation du consommateur. Ben voilà, le consommateur marocain qui a vraiment pas les moyens, l'économie est vraiment au ralenti au possible. Et il y a des produits de première nécessité comme l'eau ou le lait et l'essence qui sont trop chers. Le consommateur a un pouvoir. Comment vous voyez cette contestation, la contestataire
fasse, il faut qu'on fasse pareil en France. Et effectivement, ça bouge aussi. En France, il y a les, c'est qui le patron là, qui font du lait directement et tout ça. Bah, ce genre de choses, ça se développe de plus en plus. Mais c'est ça qu'il faut faire.
En France, est-ce qu'on a déjà boycotté des produits au point que ça fonctionne? McDonald's, ça n'a pas tellement fonctionné, le boycott.
Il y a un site qui s'appelle iBoycott, qui est assez bien foutu, où on peut lancer des campagnes de boycott. Mm-hmm. Et la marque a la possibilité de répondre aux interpellations des consommateurs et de changer justement leurs produits ou leurs procédures. Pas mal foutu.
Et c'est vrai, ça bouge. Ouais. On va y arriver, peut-être, un petit peu.
C'est fait au Maroc, c'est-à-dire que c'est Internet qui a permis de...
Une organisation du boycott, effectivement. Alors, ce qui pose aussi la question de l'emploi, hein, parce qu'évidemment, il y a déjà 886 intermédiaires de courte durée des contrats intérimaires chez Danone qui ont sauté, et des manifestations, bien sûr. Mais bon, Clara Dupont-Mono ?
Oui, juste rappeler qu'il y a un responsable de Danone qui a qualifié les boycotteurs de... Il a dit que c'était une trahison à la patrie. Il s'est excusé après, mais ça en dit long. Il a présenté ses excuses après, mais trahison à la patrie, c'est quand même...
Ça veut dire que c'est puissant comme arme, le boycott, en fait. C'est un vrai mode de contestation douce. Oui.
Vous, Florence Sestac, est-ce qu'il y a des produits ou des endroits où vous refusez de mettre les pieds et que vous boycottez, que vous avez intériorisé?
France Inter, vous nous avez dit avant de venir.
Non, j'écoute. Non, pas de chance, c'est pas ça. Non, mais je sais pas, j'achète plutôt sur le marché plutôt que dans un supermarché, parce qu'il y a encore des marchés à Paris où c'est peut-être plus cher que dans un supermarché. Mais je préfère acheter mes pommes de terre au marché, par exemple.
Vous vous rendez compte de l'impact? Parce que souvent on dit consommer, c'est voter quelque part.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc c'est vrai qu'on est à la merci de ces grandes sociétés et qu'on nous bourre la tête avec des produits et que sur le marché ou le petit tapissier à côté, c'est aussi bien, quoi.
Ouais. Alors, si on prend un exemple, bon, quand Bernard Arnault s'est barré en Belgique, on s'est dit on boycotterait bien les produits LVMH, mais on n'a pas les moyens de boycotter.
Déjà, on les achetait.
C'est déjà ça. On les boycotte. On les achetait déjà pas. Mais alors, comment on fait pour boycotter Bernard Arnault? Il faut que les riches se mettent au boycott.
Ben voilà. Et ben voilà. Commencez la mode.
Non, mais on peut lancer ça. Boycottons Christian Dior.
Vous voyez que la révolution existe encore. Pour dire un truc comme ça, c'est qu'il faut y croire encore. Pensez... Et c'est ça qui est beau, cette jeunesse qui se bat encore avec ses idéaux.
Les riches, écoutez-nous bien.
Il détient tellement de marques qu'on a l'embarras du choix dans les marques qu'on peut écouter, je dirais.
Tous les riches qui écoutent à 17h, France Inter, autant dire, vous devez être un bon paquet à partir d'aujourd'hui.
Bon, en tout cas, sachez qu'il y a un article très bien fourni sur le sujet paru dans La Croix, au Maroc, un boycott inédit contre la vie chère, qui explique aussi les liens entre les politiques et certains ministres au pouvoir et les marques, qu'il y a des conflits d'intérêts et que donc, derrière ce boycott, il y a aussi un message politique à ces gens qui détiennent ces marques de produits de première nécessité qui coûtent beaucoup trop cher.
Vous lisez beaucoup la presse catholique en ce moment, Charline. Qu'est-ce qui se passe?
Ils font un excellent travail, c'est ce que je vous dis.
Voilà, il faut le dire.
Vous préférez que je lise, je ne peux pas lire les Échos aujourd'hui, j'ai dit que je boycottais par la Je suis foutue, ce que je veux que vous dise. Allez,
c'est pas ça.
Revenons à la bande dessinée de Florent. C'est dit de conneries. Je passe la parole à Clara Dupont-Mono.
Oui, l'actualité, Charline, c'est aussi la bande dessinée de notre invité. Vous l'avez dit. La bande dessinée s'appelle Fille des oiseaux, tome 2. Alors, Florence Sestac, c'est une BD que l'on conseille à tous nos auditeurs. D'abord parce qu'on reconnaît votre double marque de fabrique. Un, le graphisme très rond, à commencer par les nez. Vous faites les nez tout ronds, et donc on reconnaît grâce à ça. Et deux, vous avez un art d'alléger les sujets lourds, de transformer l'encombrant en sourire et le glauque en drôle. Alors, c'est pas évident de réaliser cette transformation.
Pas facile.
Et pour l'opérer, vous vous appuyez sur un binôme. Et dans Filles des oiseaux, le fil narratif, c'est en effet un duo. Ce sont deux femmes. C'est vraiment les deux personnages. Un peu comme Flaubert a fait avec Bouvard et Pécuchet, par exemple. Comme Jean-Jacques
Man avec Michael Jones. Non, mais quelque part. Mais si, quelque part.
C'était bien parti.
C'est bien. Comme Vizorek avec Mr. Bean. Hein, voilà. Ou comme Guillaume Meurice avec Staline, un tandem. ça marche ensemble. Voilà. Là, il s'agit de deux filles. L'une s'appelle Marie Colombe. Elle vient de la très haute bourgeoisie. Elle vous voit ses parents. Et l'autre s'appelle Thérèse. Elle vient de la campagne. Elle connaît très bien l'anatomie des vaches. Elles se sont rencontrées au pensionnat de Honfleur. Et ça, vous le racontiez dans le tome 1. Résultat des courses, c'est que la huppée et la campagnarde sont restées liées, vraiment liées, toute leur vie. Et les voilà donc dans ce tome 2, 50 ans plus tard. C'est donc un livre qu'on peut lire comme un travail sur les liens qui unissent deux personnes, malgré les secousses de la vie. Et d'ailleurs, l'album, Vizorek l'a rappelé tout à l'heure, mais s'ouvre sur nos deux nanas en train de siroter un verre de Saint-Amour. Elles se souviennent de mai 68 en disant, je cite, « exaltant que c'était ». Voilà, et elles gloussent. Alors, en effet, vous faites un flashback et vous rappelez que mai 68, d'abord, a changé leur vie parce que elles avaient la pilule. Et oui. Donc,
un peu après 68. Après.
Oui, mais vous dites que la pilule a changé leur vie quand même. Oui, parce qu'on voit Marie Colombe qui la gobe loin du regard parental et même elle la met dans sa brosse à dents, à l'intérieur des poils de la brosse à dents pour éviter qu'on la repère. Et d'autres de ses camarades scotchent la plaquette dans leurs agendas. C'est toujours mieux que de se faire avorter à Londres ou à Amsterdam. Ça, c'est un chagrin que vous aviez très joliment raconté dans un autre album, Des salopes et des anges. Et là aussi, belle démonstration de la transformation de l'épreuve en humour. En tout cas, en mai 68, les filles ne disent plus « bonsoir », mais « alors mon chou, on se mélange ?» S'habiller devient superflu, ça va de soi, hein, c'est accessoire. Et sur les murs, on peut lire, je cite, « luttons contre la fixation affective qui paralyse nos potentialités ». En résumé, partouzon. C'est en un mot. Voilà. Oui. Alors, Marie Colombe, elle a un faible pour les junkies. Elle file à Londres. Elle tente une carrière de mannequin chanteuse. Thérèse, elle a un faible pour les besogneux. Elle reste en France et elle fabrique des choux à la crème qui partent comme des petits pains. 3 francs les 5. Résultat, elle ouvre sa boutique qui s'appelle Les Choux de Thérèse et elle a même droit à un article dans un journal qui s'appelle La poule déchaînée. La gloire. La gloire. La classe, les hommes défilent. Les hommes défilent tout au long de l'album. Nos deux copines les surnomment, je cite, des amants chaussettes, porter une journée, hop, on jette. Le travail, c'est pareil, on saute d'un job à l'autre. Et Marie Colombe passe de chanteuse à une agence de pub en passant par un journal féminin prénommé Vulva Magazine. J'imagine que c'est du vécu.
Bien sûr.
Voilà,
c'est ça. Vous n'avez pas connu le Vulva Magazine ?
Non, alors, mais moi, j'étais pas née à l'époque. J'étais qu'une idée. J'étais un rêve caressé du bout des doigts. Alors, bien sûr, il y a des tensions. Je vous remercie, Guillaume Meurice. Alors, bien sûr, il y a des tensions entre les deux. Dû à quoi ? Eh bien, dû au fait que les bonnes manières sont parfois beaucoup plus du côté des paysannes que des bourgeoises. Idem pour la tête froide, pour un certain pragmatisme, puisque Thérèse épouse un comptable et Marie Colombe, elle flanche pour un cocaïnomane. Les voilà donc, nos deux amies, après beaucoup de fêtes et d'enterrements, conscientes que la désillusion n'est pas très loin et vous n'esquivez pas le sujet, et ça, ça fait plaisir. Mais si on résume, elle voulait l'égalité homme-femme, l'union libre pour tous, la fin du racisme, l'élimination de Dieu. Autant dire que notre époque n'est pas hyper raccord avec leurs idéaux. Je ne parle même pas de leurs compagnons révolutionnaires qui hurlaient contre l'autorité avant de finir patron derrière des bureaux en verre dépoli. Exaltant que c'était, disait-elle, oppressant que c'est, pourrait-elle dire aujourd'hui. Et c'est Gustave Flaubert, j'avais commencé par lui pour Bouvard et Pécuchet, mais je lui laisse le dernier mot, il l'a dit avant elle, dans l'éducation sentimentale, quand Frédéric conclut « Oui, mais c'est là ce que nous avons eu de meilleur ». Je vous redonne les références. « Fille des oiseaux », tome 2 de Florence Sestac, qui est paru chez Dargaud.
Merci Clara Dupont-Mono.
C'est magnifique, merci Clara.
Bah non, merci,
c'est
Clara.
Pas moi, c'est vous.
Florence
Sestac. Oui, c'est pas elle, c'est vous, hein, Florence.
C'est pas elle du tout. Non, et les conséquences de mai 68, qui pour vous ont commencé, Florence Sestac, en mai 68, par 18 jours de tôle que vous avez occupé. C'était quoi donc qu'on vous demandait de faire en prison? C'était...
Le travail que je devais faire, c'était des bouquets de violettes pour les couronnes mortuaires. Ouais. Et on était payé 10 centimes du bouquet. De 50.
Et payé en plus, c'est ça.
10 centimes, 10 centimes.
Florence Sestac avec nous. Jusqu'à 18h. Alors, les enfants aiment lire, surtout à l'école primaire. Mais une fois adolescents, il paraît que les garçons lâchent l'affaire au profit de tas d'autres loisirs qui passent avant, dont les filles, bien sûr.
Bien sûr,
oui. Lire, ils disent à cet âge-là que ça fait fille. Alors évidemment, plus tard, en grandissant, voilà le résultat, ce que ça donne.
Dites-moi, est-ce que vous aimez la lecture ?
Oui, mais je n'ai pas beaucoup de temps pour lire.
Mais vous savez bien lire.
Ah oui, monsieur.
Vous savez, quelquefois, le soir, il m'arrive d'être un peu fatigué. J'aime bien qu'on me fasse de la lecture. Une jolie voix, c'est tellement agréable à écouter. Si vous voulez bien, nous allons faire une petite tentative. Voilà, vous allez vous asseoir ici quelques instants et vous me lirez quelques lignes au hasard.
Puisque par le temps qui court, il n'existe plus de substance saine.
Ça ne vous ennuie pas que je vous touche le mollet.
C'est Journal d'une femme de chambre de Louise Bunuel avec Jeanne Moreau et Georges Géret dans cette scène. Un article de Slate.fr intitulé « Pourquoi ado, votre fils ne lit plus de livres ?» Alors Florence Sestac, vous qui touchez notamment un public jeune et avec le journal de Mickey aussi, évidemment.
J'ai publié. Oui,
tout à fait. C'est quelque chose que vous avez constatez, vous, qu'il y a un âge où les jeunes garçons, ils ont tendance à abandonner la lecture. Et peut-être c'est à ce moment-là qu'ils se tournent plus vers la BD.
Les garçons lisent plus de BD que de filles. C'est sûr, vraiment.
Et ça, c'est une explication pour laquelle aussi il y a moins d'auteurs de BD femmes. Il y a une espèce de c'est genré dès le départ, si on peut dire aujourd'hui.
Non, mais moi, quand j'étais petite, je piquais les bandes dessinées de mon petit frère, mais jamais on m'offrait des bandes dessinées. Donc, quand je pense qu'on n'a pas lu étant petite, c'est difficile d'en faire après.
C'est culturel ou c'est physiologique pour les garçons préfèrent les dessins.
C'est culturel.
J'en sais rien.
Et donc c'était comme ça. Donc le monde de la bande dessinée est très masculin, ça c'est sûr. Et donc,
quand vous étiez au pensionnat, il y avait des lectures que vous ne pouviez pas emmener?
Les bandes dessinées, c'était totalement interdit. Ah, oui. C'est pour ça que j'achetais des petits formats, les Pépito, Black Le Rock et toutes ces conneries que je cachais dans mon cartable.
D'accord. Et vous les rameniez, comment vous faisiez pour les ramener, pour les acheter alors?
Je les planquais dans mon cartable.
D'accord.
Voilà. Et quand je me faisais gauler, ça coûtait cher. Ça coûtait
et vous lisiez où alors, sous la couette?
Non, sous le bureau en classe.
C'est fou de se dire que la BD, c'était il n'y a pas si longtemps, était frappée d'interdit.
Bien sûr.
C'est incroyable quand même.
Mais oui,
c'était mal, c'était mauvais genre en fait.
Mais oui, c'était pour les débiles mentaux ou pour les. Voilà, c'est pas. Non. C'est une horreur. Donc moi, j'étais une fille perdue. Mon père a toujours dit j'étais une fille perdue, mais ça commençait très tôt, quoi, très tôt.
La preuve, vous êtes aujourd'hui sur France Inter dans Parle Jupiter, c'est bien la preuve. En tout cas, je vous renvoie à cet article de Slate.fr qui explique notamment, qui cherche des explications en disant immobilité, calme, silence et enrichissement de la vie intérieure, ce ne sont pas vraiment des qualités chez les ados, surtout garçons, mais plutôt chez les filles.
D'accord. Nous, on découvre notre corps et ça demande pas mal d'investigation.
Il y a un petit travail, c'est même pas terminé encore.
Le catalogue La Redoute, en revanche, on connaissait pas.
On va vous demander de jouer avec nous. On va faire du subversif encore.
En fin d'émission, on propose un sketch à l'invité. Et je me suis dit, comme dans votre bande dessinée, c'est deux femmes qui parlent de leur passé. Pourquoi ne pas mettre Carla Bruni et Bernadette Chirac à une table avec du Saint-Amour? Vous êtes Bernadette Chirac, Carla Bruni, c'est Charline Vanhoenacker. Et les conjoints respectifs, c'est Guillaume et moi-même.
Je te resserre un verre de pinard, Bernadette.
Vous n'auriez pas plutôt une camomille?
Allez, lâche-toi un peu. T'es pas aux pièces jaunes avec David Douillet?
David qui?
Mais ne fais pas l'innocente. Avoue que tu kiffes grave le gros doudouille.
Pardon, mais je connais que Jacques, mon mari.
Ah, lui en tout cas, il en connaît plus aucune, même pas toi.
C'est malin. Et vous, Clara, vous avez eu d'autres hommes?
Disons qu'il y a eu Mick, Eric, Jean-Jacques, Arnaud.
Ah, quand même!
Oui, Vincent, Laurent, Raphaël, le papa de Raphaël.
Clara, je vous signale qu'on doit rendre l'antenne à 18h.
De quoi vous parlez, les filles?
Oh, rien, mon chouchou, tu peux continuer à répondre aux questions du juge.
Vous ne regrettez pas trop l'Élysée?
Énormément. La vie était d'une insouciance.
Parler pour vous.
Oh, quand je me rappelle Chouchou partant faire son jogging avec son t-shirt New York City Police Department.
Oh mon Jacques, s'il avait pu faire une pétanque coiffée d'un Bob Ricard.
Qu'est-ce qu'elle dit, la vieille dame?
Jacques, je suis votre femme.
Excusez-moi, vous ressemblez à Baladur.
Mais non, on nous différencie très bien. Édouard n'a pas de sac à main.
Oh oui, ce que t'étais drôle avec tes sacs à main.
Comme vous, ce que vous êtes dit drôle avec vos liftings.
Mais dis donc, mamie, t'aurais pas un peu trop forcé sur la tisane?
C'est-à-dire que de mon temps à l'Élysée, on buvait que de la flotte.
Tu picolais en cachette?
Pas moi, Jacques, et pas en cachette.
À propos, y a pas petite binouze?
Après tes goûts, Jacques.
Quand je repense à toutes ces années où Nicolas et moi étions au sommet.
Parce qu'on ne l'est plus?
Disons que...
Moi, j'ai encore la pêche, la super pêche.
Oh, si le site du Juppé, c'est la fin. Hein. Oh,
vous savez que je vous aime bien, en fait, Bernadette.
Moi aussi, Clara. En fait, celle qu'on n'aime pas, c'est Brigitte.
Je n'assume pas du tout cette chute.
C'est pas vous, c'est le personnage.
Merci. Merci beaucoup, Florence Sestac, d'avoir passé cette heure avec nous. Oui, vous avez un petit peu dessiné sur la table.
Les dessinateurs, ils en mettent plein les mains.
Qu'est-ce que vous avez dessiné pendant l'émission, alors?
Un petit dessin, là, tout simple. Voilà,
vous pouvez le décrire.
C'est moi en train de dessiner. J'ai signé tout ça.
C'est autoportrait.
Vous pouvez vendre la table très cher maintenant.
On n'y manquera pas. Dès que Françoise Nyssen nous aura dit combien on doit lui rendre, on la mettra aux enchères. Merci beaucoup, Florence Sestac. Je rappelle votre dernier album, Fille des oiseaux, le deuxième tome, paru chez Dargaud. Et on attend une pièce de théâtre au Théâtre du Rond-Point à la rentrée du 16 octobre au 18 novembre. Oui. Un amour exemplaire.
Avec Daniel Pénac.
Exactement. Une pièce imaginée à partir de la BD de Florence Sestac et Daniel Pénac.
Voilà.
Un amour exemplaire. On attend ça avec impatience. En attendant, on se retrouve demain. Et on va laisser le mot de la fin. Allez, on lui doit bien ça à Brigitte Macron, telle qu'elle s'expose dans Paris Match.
J'essaie d'agir à mon petit niveau, évidemment. Par exemple, j'ai décidé d'organiser une grande journée 4 quarts pour le quart monde.